Cosette, livre 8e. Les cimetières prennent ce qu'on leur donne. Chapitre 1. Où il est traité de la manière d'entrer au couvent. C'est dans cette maison que Jean Valjean était, comme avait dit Fauchelevent, tombé du ciel. Il avait franchi le mur du jardin qui faisait l'angle de la rue Polonceau. Cet hymne des anges qu'il avait entendu au milieu de la nuit, c'étaient les religieuses chantant matine. Cette salle qu'il avait entrevue dans l'obscurité, c'était la chapelle. Ce fantôme qu'il avait vu étendu à terre, c'était la sœur faisant la réparation. Ce grelot dont le bruit l'avait si étrangement surpris, c'était le grelot du jardinier attaché aux genoux du père Fauchelevent. Une fois Cosette couchée, Jean Valjean et Fauchelevent avaient, comme on l'a vu, soupé d'un verre de vin et d'un morceau de fromage devant un bon fagot flambant. Puis, le seul lit qu'il y eut dans la baraque étant occupé par Cosette, ils s'étaient jetés chacun sur une botte de paille. Avant de fermer les yeux, Jean Valjean avait dit « Il faut désormais que je reste ici ». Cette parole avait trotté toute la nuit dans la tête de Fauchelevent. À vrai dire, ni l'un ni l'autre n'avait dormi. Jean Valjean, se sentant découvert et Javert sur sa piste, comprenait que lui et Cosette étaient perdus s'ils rentraient dans Paris. Puisque le nouveau coup de vent qui venait de souffler sur lui l'avait échoué dans ce cloître, Jean Valjean n'avait plus qu'une pensée. Y rester. Or, pour un malheureux dans sa position, ce couvent était à la fois le lieu le plus dangereux et le plus sûr. Le plus dangereux, car aucun homme ne pouvant y pénétrer, si on l'y découvrait, c'était un flagrant délit, et Jean Valjean ne faisait qu'un pas du couvent à la prison. Le plus sûr, car si l'on parvenait à s'y faire accepter et à y demeurer, qui viendrait vous chercher là ? Habiter un lieu impossible, c'était le salut. De son côté, Fauchelevent se creusait la cervelle. Il commençait par se déclarer qu'il n'y comprenait rien. Comment M. Madeleine se trouvait-il là, avec les murs qu'il y avait ? Des murs de cloître ne s'enjambent pas. Comment s'y trouvait-il avec un enfant ? On n'escalade pas une muraille à pic avec un enfant dans ses bras. Qu'était-ce que cet enfant ? D'où venaient-ils tous les deux ? Depuis que Fauchelevent était dans le couvent, il n'avait plus entendu parler de Montreuil-sur-Mer et il ne savait rien de ce qui s'était passé. Le père Madeleine avait cet air qui décourage les questions et d'ailleurs Fauchelevent se disait « On ne questionne pas un saint ». Monsieur Madeleine avait conservé pour lui tout son prestige. Seulement, de quelques mots échappés à Jean Valjean, le jardinier crut pouvoir conclure que M. Madeleine avait probablement fait faillite par la dureté des temps et qu'il était poursuivi par ses créanciers, ou bien qu'il était compromis dans une affaire politique et qu'il se cachait. Ce qui ne déplut point à Fauchelevent, lequel, comme beaucoup de nos paysans du Nord, avait un vieux fond bonapartiste. Se cachant, M. Madeleine avait pris le couvent pour asile, et il était simple qu'il voulût y rester. Mais l'inexplicable, où Fauchelevent revenait toujours et où il se cassait la tête, c'était que M. Madeleine fût là et qu'il y fût avec cette petite. Fauchelevent les voyait, les touchait, leur parlait, et n'y croyait pas. L'incompréhensible venait de faire son entrée dans la cahute de Fauchelevent. Fauchelevent était à tâtons dans les conjectures et ne voyait plus rien de clair, sinon ceci. Monsieur Madeleine m'a sauvé la vie. Cette certitude unique suffisait et le détermina. Il se dit à part lui, c'est mon tour. Il ajouta dans sa conscience, Monsieur Madeleine n'a pas tant délibéré quand il s'est agi de se fourrer sous la voiture pour m'en tirer. Il décida qu'il sauverait M. Madeleine. Il se fit pourtant diverses questions et diverses réponses. Après ce qu'il a été pour moi, si c'était un voleur, le sauverais-je ? tout de même. Si c'était un assassin, le sauverais-je ? Tout de même. Puisque c'est un saint, le sauverais-je ? Tout de même. Mais le faire rester dans le couvent, quel problème ! Devant cette tentative presque chimérique, Fauchelevent ne recula point. Ce pauvre paysan picard, sans autre échelle que son dévouement, sa bonne volonté et un peu de cette vieille finesse campagnarde mise cette fois au service d'une intention généreuse, entreprit d'escalader les impossibilités du cloître et les rudes escarpements de la règle de Saint-Benoît. Le père Fauchelevent était un vieux qui toute sa vie avait été égoïste et qui, à la fin de ses jours, boiteux, infirme, n'ayant plus aucun intérêt au monde, trouva doux d'être reconnaissant et, voyant une vertueuse action à faire, se jeta dessus comme un homme qui, au moment de mourir, rencontrerait sous sa main un verre d'un bon vin dont il n'aurait jamais goûté et le boirait avidement. On peut ajouter que l'air qu'il respirait depuis plusieurs années déjà dans ce couvent avait détruit la personnalité en lui et avait fini par lui rendre nécessaire une bonne action quelconque. Il prit donc sa résolution, se dévouer à M. Madeleine. Nous venons de le qualifier « pauvre paysan picard ». La qualification est juste, mais incomplète. Au point de cette histoire où nous sommes, un peu de physiologie du père Fauchelevent devient utile. Il était paysan, mais il avait été tabellion, ce qui ajoutait de la chicane à sa finesse et de la pénétration à sa naïveté. Ayant, pour des causes diverses, échoué dans ses affaires, de tabellion il était tombé charretier et manœuvre. Mais, en dépit des jurons et des coups de fouet, nécessaires aux chevaux, à ce qu'il paraît, il était resté du tabellion en lui. Il avait quelque esprit naturel. Il ne disait ni jonc ni javon. Il causait, chose rare au village. Et les autres paysans disaient de lui « Il parle quasiment comme un monsieur à chapeau. » Fauchelevent était en effet de cette espèce que le vocabulaire impertinent et léger du dernier siècle qualifiait « demi-bourgeois, demi-manant ». Et que les métaphores tombant du château sur la chaumière étiquetait dans le casier de la roture un peu rustre, un peu citadin, poivre et sel. Fauchelevent, quoique fort éprouvé et fort usé par le sort, espèce de pauvre vieille âme montrant la corde, était pourtant homme de premier mouvement et très spontané, qualité précieuse qui empêche qu'on soit jamais mauvais. Ses défauts et ses vices, car il en avait eu, était de surface. En somme, sa physionomie était de celles qui réussissent près de l'observateur. Ce vieux visage n'avait aucune de ces fâcheuses rides du haut du front qui signifient méchanceté ou bêtise. Au point du jour, ayant énormément songé, le père Fauchelevent ouvrit les yeux et vit M. Madeleine, qui, assis sur sa botte de paille, regardait Cosette dormir. Fauchelevent se dressa sur son séant et dit « Maintenant que vous êtes ici, comment allez-vous faire pour y entrer ?» Ce mot résumait la situation et réveilla Jean Valjean de sa rêverie. Les deux bons hommes tinrent conseil. « D'abord, dit Fauchelevent, vous allez commencer par ne pas mettre les pieds hors de cette chambre. La petite nie vous. Un pas dans le jardin, nous sommes flambés. » « C'est juste. » « Monsieur Madeleine, reprit Fauchelevent, vous êtes arrivé dans un moment très bon, je veux dire très mauvais. Il y a une de ces dames fort malade. Cela fait qu'on ne regardera pas beaucoup de notre côté. Il paraît qu'elle se meurt. On dit les prières de 40 heures. Toute la communauté est en l'air. Ça les occupe. Celle qui est en train de s'en aller est une sainte. Au fait, nous sommes tous des saints ici. Toute la différence entre elle et moi, c'est qu'elles disent « notre cellule » et que je dis « ma piole ». il va y avoir l'oraison pour les agonisants, et puis l'oraison pour les morts. Pour aujourd'hui, nous serons tranquilles ici. Mais je ne réponds pas de demain. »
Pourtant, observa Jean Valjean, cette baraque est dans le rentrant du mur. Elle est cachée par une espèce de ruine. Il y a des arbres, on ne la voit pas du couvent.
Et j'ajoute que les religieuses n'en approchent jamais.
Eh bien, fit Jean Valjean. Le point d'interrogation qui accentuait cette « eh bien » signifiait « il me semble qu'on peut y demeurer caché ».
C'est à ce point d'interrogation que Fauchelevent répondit « il y a les petites ».
« Quelles petites ?» demanda Jean Valjean.
Comme Fauchelevent ouvrait la bouche pour expliquer le mot qu'il venait de prononcer, une cloche sonna un coup.
« La religieuse est morte, dit-il, voici le glas. »
Et il fit signe à Jean Valjean d'écouter.
La cloche sonna un second coup.
« C'est le glas, monsieur Madeleine. La cloche va continuer de minute en minute pendant 24 heures, jusqu'à la sortie du corps de l'église. Voyez-vous, ça joue. Aux récréations, il suffit qu'une balle roule pour qu'elle s'en vienne, malgré les défenses, cherchées et fourbancées partout par ici. C'est des diables, ces chérubins-là. »
Qui ? Demanda Jean Valjean.
Les petites. Vous seriez bien vite découvert, allez. Elles crieraient. Tiens, un homme !
Mais il n'y a pas de danger aujourd'hui. Il n'y aura pas de récréation. La journée va être tout prière. Vous entendez la cloche ? Comme je vous le disais, un coup par minute, c'est le glas.
Je comprends, père Fauchelevent. Il y a des pensionnaires.
Et Jean Valjean pensa par lui, ce serait l'éducation de Cosette toute trouvée.
Fauchelevent s'exclama, pardine, s'il y a des petites filles, et qui piailleraient autour de vous, et qui se sauveraient. Ici, être homme, c'est avoir la peste. Vous voyez bien qu'on m'attache un grelot à la patte, comme à une bête féroce.
Jean Valjean songeait de plus en plus profondément.
« Ce couvent nous sauverait, murmurait-il. » Puis il éleva la voix.
« Oui, le difficile, c'est de rester. »«
Non, dit Fauchelevent, c'est de sortir. »
Jean Valjean sentit le sang lui refluer au cœur.
« Sortir ? » ?»«
Oui, monsieur Madeleine, pour rentrer, il faut que vous sortiez. »
Et après avoir laissé passer un coup de cloche du glas, Fauchelevent poursuivit.
« On ne peut pas vous trouver ici comme ça. D'où venez-vous ? Pour moi, vous tombez du ciel, parce que je vous connais. Mais des religieuses, ça a besoin qu'on entre par la porte. »
Tout à coup, on entendit une sonnerie assez compliquée d'une autre cloche.
« Ah ! » dit Fauchelevent, « on sonne les mères vocales. Elles vont au chapitre. On tient toujours chapitre quand quelqu'un est mort. Elle est morte au point du jour. C'est ordinairement au point du jour qu'on meurt.
« Mais est-ce que vous ne pourriez pas sortir par où vous êtes entré ?»«
Voyons, ce n'est pas pour vous faire une question. Par où êtes-vous entré ?»
Jean Valjean devint pâle. La seule idée de redescendre dans cette rue formidable le faisait frissonner. Sortez d'une forêt pleine de tigres, et une fois dehors, imaginez-vous un conseil d'amis qui vous engage à y rentrer. Jean Valjean se figurait toute la police encore grouillante dans le quartier, des agents en observation, des vedettes partout, d'affreux poings tendus vers son collet, Javert peut-être au coin du carrefour.
Impossible, dit-il. Père Fauchelevent, mettez que je suis tombé de là-haut.
Mais je le crois, reprit Fauchelevent. Vous n'avez pas besoin de me le dire. Le bon Dieu vous aura pris dans sa main pour vous regarder de près et puis vous aura lâché. Seulement, il voulait vous mettre dans un couvent d'hommes. Il s'est trompé.
Allons, encore une sonnerie. Celle-ci est pour avertir le portier d'aller prévenir la municipalité pour qu'elle aille prévenir le médecin des morts, pour qu'il vienne voir qu'il y a une morte. Tout ça, c'est la cérémonie de mourir.
Elles n'aiment pas beaucoup cette visite-là, ces bonnes dames. Un médecin, ça ne croit à rien. Il lève le voile, il lève même quelquefois autre chose.
comme elles ont vite fait avertir le médecin cette fois-ci.
« Qu'est-ce qu'il y a donc? Votre petite dort toujours. Comment se nomme-t-elle ?»«
Cosette. » »«
C'est votre fille, comme qui dirait, vous seriez son grand-père. » »«
Oui. » »«
Pour elle, sortir d'ici, ce sera facile. J'ai ma porte de service qui donne sur la cour. Je cogne, le portier ouvre, j'ai ma hotte sur le dos, la petite est dedans, je sors. Le père Fauchelevent sort avec sa hotte, c'est tout simple. Vous direz à la petite de se tenir bien tranquille, elle sera sous la bâche. Je la déposerai, le temps qu'il faudra, chez une vieille bonne amie de fruitière que j'ai rue du Chemin Vert, qui est sourde et où il y a un petit lit. Je crierai dans l'oreille à la fruitière que c'est une nièce à moi et de me la garder jusqu'à demain. Puis la petite rentrera avec vous, car je vous ferai rentrer, il le faudra bien. Mais vous, comment ferez-vous pour sortir ?
Jean Valjean hocha la tête.
Que personne ne me voit, tout est là, père Fauchelevent. Trouvez moyen de me faire sortir comme Cosette dans une hotte et sous une bâche.
Fauchelevent se grattait le bas de l'oreille avec le médium de la main gauche, signe de sérieux embarras.
Une troisième sonnerie fit diversion. « Voici le médecin des morts qui s'en va, » dit Fauchelevent. Il a regardé et dit « Elle est morte, c'est bon. »
Quand le médecin a visé le passeport pour le paradis, les pompes funèbres envoient une bière. Si c'est une mère, les mères l'ensevelissent. Si c'est une sœur, les sœurs l'ensevelissent. Après quoi, je cloue. Cela fait partie de mon jardinage. Un jardinier est un peu un fossoyeur. On la met dans une salle basse de l'église qui communique à la rue et où pas un homme ne peut entrer que le médecin des morts. Je ne compte pas pour des hommes, les croque-morts et moi. C'est dans cette salle que je cloue la bière. Les croque-morts viennent la prendre et fouettent cocher. C'est comme cela qu'on s'en va au ciel. On apporte une boîte où il n'y a rien, on la remporte et quelque chose dedans. Voilà ce que c'est qu'un enterrement. De profundis.
Un rayon de soleil horizontal effleurait le visage de Cosette endormie, qui entr'ouvrait vaguement la bouche, et avait l'air d'un ange buvant de la lumière. Jean Valjean s'était mis à la regarder. Il n'écoutait plus Fauchelevent.
N'être pas écouté, ce n'est pas une raison pour se taire. Le brave vieux jardinier continuait paisiblement son rabâchage.
On fait la fosse au cimetière Vaugirard ? On prétend qu'on va le supprimer, ce cimetière Vaugirard. C'est un ancien cimetière qui est en dehors des règlements, qui n'a pas l'uniforme, qui va prendre sa retraite.
C'est dommage, car il est commode.
J'ai là un ami, le père Métienne, le fossoyeur. Les religieuses d'ici ont un privilège, c'est d'être portées à ce cimetière-là à la tombée de la nuit. Il y a un arrêté de la préfecture exprès pour elles.
Mais que d'événements depuis hier! La mère Crucifixion est morte, et le père Madeleine
est enterré, dit Jean Valjean, souriant tristement.
Fauchelevent fit ricocher le mot. Dame, si vous étiez ici tout à fait, ce serait un véritable enterrement.
Une quatrième sonnerie éclata. Fauchelevent détacha vivement du clou la genouillère à grelot et la reboucla à son genou.
Cette fois, c'est moi. La mère prieure me demande.
Bon, je me pique à l'ardillon de ma boucle.
Monsieur Madeleine, ne bougez pas et attendez-moi. Il y a du nouveau.
Si vous avez faim, il y a là le vin, le pain et le fromage.
Et il sortit de la cahute en disant « On y va, on y va !»
Jean Valjean le vit se hâter à travers le jardin, aussi vite que sa jambe torse le lui permettait, tout en regardant de côté ses melonnières. Moins de 10 minutes après, le père Fauchelevent, dont le grelot mettait sur son passage les religieuses en déroute, frappait un petit coup à une porte, et une voix douce répondait « à jamais », c'est-à-dire « entrez ». Cette porte était celle du parloir réservé aux jardiniers pour les besoins de service. Ce parloir était contigu à la salle du chapitre. La prieure, assise sur l'unique chaise du parloir,
attendait Fauchelevent. Chapitre 2. Fauchelevent en présence de la difficulté. Avoir l'air agité et grave, cela est particulier dans les occasions critiques, à de certains caractères et à de certaines professions, notamment aux prêtres et aux religieux. Au moment où Fauchelevent entra, cette double forme de la préoccupation était empreinte sur la physionomie de la prieure, qui était cette charmante et savante mademoiselle de Blémeur, mère innocente, ordinairement gaie. Le jardinier fit un salut craintif et resta sur le seuil de la cellule. La prieure, qui égrenait son rosaire, leva les yeux et dit « Ah, c'est vous, père Fauvent !» Cette abréviation avait été adoptée dans le couvent. Fauchelevent recommença son salut. « Père Fauvent, je vous ai fait appeler. » « Me voici, révérende mère. J'ai à vous parler. » « Et moi, de mon côté, » dit Fauchelevent, avec une hardiesse dont il avait peur intérieurement, « j'ai quelque chose à dire à la très révérende mère. » La prieure le regarda. « Ah, vous avez une communication à me faire ?»« Une prière. » « Eh bien, parlez !» Le bonhomme Fauchelevent, ex-tabellion, appartenait à la catégorie des paysans qui ont de l'aplomb. Une certaine ignorance, habile, est une force. On ne s'en défie pas, et cela vous prend. Depuis un peu plus de 2 ans qu'il habitait le couvent, Fauchelevent avait réussi dans la communauté. Toujours solitaire et toujours vacant à son jardinage, il n'avait guère autre chose à faire que d'être curieux. À distance, comme il était de toutes ces femmes voilées allant et venant, il ne voyait guère devant lui qu'une agitation d'ombre. À force d'attention et de pénétration, il était parvenu à remettre de la chair dans tous ces fantômes, et ces mortes vivaient pour lui. Il était comme un sourd dont la vue s'allonge, et comme un aveugle dont l'ouïe s'aiguise. Il s'était appliqué à démêler le sens des diverses sonneries, et il y était arrivé, de sorte que ce cloître énigmatique et taciturne n'avait rien de caché pour lui. Ce sphinx lui bavardait tous ses secrets à l'oreille. Fauchelevent, sachant tout, cachait tout. C'était là son art. Tout le couvent le croyait stupide. Grand mérite en religion. Les mères vocales faisaient cas de Fauchelevent. C'était un curieux muet. Il inspirait la confiance. En outre, il était régulier et ne sortait que pour les nécessités démontrées du verger et du potager. Cette discrétion d'allure lui était comptée. Il n'en avait pas moins fait jaser 2 hommes. Au couvent, le portier, et il savait les particularités du parloir. Et au cimetière, le fossoyeur, et il savait les singularités de la sépulture. De la sorte, il avait, à l'endroit de ses religieuses, une double lumière, l'une sur la vie, l'autre sur la mort. Mais il n'abusait de rien. La congrégation tenait à lui. Vieux, boiteux, n'y voyant goutte, probablement un peu sourd, que de qualité, on l'eût difficilement remplacé. Le bonhomme, avec l'assurance de celui qui se sent apprécié, entama, vis-à-vis de la révérende prieure, une harangue campagnarde assez diffuse et très profonde. Il parla longuement de son âge, de ses infirmités, de la surcharge des années, comptant double désormais pour lui, des exigences croissantes du travail, de la grandeur du jardin, des nuits à passer, comme la dernière par exemple, où il avait fallu mettre des paillassons sur les melonnières à cause de la lune. Et il finit par aboutir à ceci. Qu'il avait un frère. La prieure fit un mouvement. Un frère point jeune. Second mouvement de la prieure, mais mouvement rassuré. Que, si on le voulait bien, ce frère pourrait venir loger avec lui et l'aider. Qu'il était excellent jardinier. Que la communauté en tirerait de bons services, meilleurs que les siens à lui. que, autrement, si l'on n'admettait point son frère, comme lui l'aîné, il se sentait cassé et insuffisant à la besogne, il serait, avec bien du regret, obligé de s'en aller. Et que son frère avait une petite fille qui l'amènerait avec lui, qui s'élèverait en Dieu dans la maison, et qui peut-être, qui sait, ferait une religieuse un jour. Quand il eut fini de parler, la prieure interrompit le glissement de son rosaire entre ses doigts et lui dit « Pourriez-vous, d'ici à ce soir, vous procurer une forte barre de fer ?»«
Pourquoi faire ?»«
Pour servir de levier. » »«
Oui, révérende mère, » répondit Fauchelevent.
La prieure, sans ajouter une parole, se leva et entra dans la chambre voisine, qui était la salle du chapitre, et où les mères vocales étaient probablement assemblées. Fauchelevent demeura seul. Chapitre 3. Mère innocente. Un quart d'heure environ s'écoula. La prieure rentra et revint s'asseoir sur la chaise. Les deux interlocuteurs semblaient préoccupés. Nous sténographions de notre mieux le dialogue qui s'engagea. Père Fauvent.
Révérende mère,
vous connaissez la chapelle.
J'y ai une petite cage pour entendre la messe et les offices.
Et vous êtes entré dans le chœur pour votre ouvrage.
2 ou 3 fois.
Il s'agit de soulever une pierre.
Lourde ?
La dalle du pavé qui est à côté de l'autel.
La pierre qui ferme le caveau ?
Oui.
C'est là une occasion où il serait bon d'être 2 hommes.
La mère Ascension, qui est forte comme un homme, vous aidera.
Une femme n'est jamais un homme.
Nous n'avons qu'une femme pour vous aider. Chacun fait ce qu'il peut. Parce que Don Mabillon donne 417 épîtres de Saint Bernard et que Merlonus Hortus n'en donne que 367. Je ne méprise point Merlonus Hortus.
Ni moi non plus.
Le mérite est de travailler selon ses forces. Un cloître n'est pas un chantier.
Et une femme n'est pas un homme. C'est mon frère qui est fort.
Et puis vous aurez un levier.
C'est la seule espèce de clé qui aille à ces espèces de portes.
Il y a un anneau à la pierre.
J'y passerai le levier.
Et la pierre est arrangée de façon à pivoter.
C'est bien, révérende mère, j'ouvrirai le caveau.
Et les 4 mères chantres vous assisteront.
Et quand le caveau sera ouvert,
il faudra le refermer.
Sera-ce tout ?
Non. Donnez-moi vos ordres, très révérende mère.
Fauvent, nous avons confiance en vous.
Je suis ici pour tout faire.
Et pour tout taire.
Oui, révérende mère.
Quand le caveau sera ouvert,
je le refermerai.
Mais auparavant...
Quoi, révérende mère ?
Il faudra y descendre quelque chose.
Il y eut un silence. La prieure, après une moue de la lèvre inférieure qui ressemblait à de l'hésitation, le rompit.
« Père Fauvent ?
Révérende mère ?
Vous savez qu'une mère est morte ce matin. »
« Non.
Vous n'avez donc pas entendu la cloche ?
On n'entend rien au fond du jardin. »«
En vérité ?
C'est à peine si je distingue ma sonnerie. »«
Elle est morte à la pointe du jour. » »«
Et puis ce matin, le vent ne portait pas de mon côté. » »«
C'est la mère Crucifixion, une bienheureuse. »
La prieure se tut, remua un moment les lèvres, comme pour une oraison mentale, et reprit.
Il y a 3 ans, rien que pour avoir vu prier la mère Crucifixion, une janséniste, Madame de Béthune, s'est faite orthodoxe.
Ah oui, j'entends le glas maintenant, révérende mère.
Les mères l'ont portée dans la chambre des mortes qui donne dans l'église.
Je sais. Aucun autre homme que vous ne peut et ne doit entrer dans cette chambre-là. Veillez-y bien. Il ferait beau voir qu'un homme entra dans la chambre des mortes.
Plus souvent.
Hein ?
Plus souvent.
Qu'est-ce que vous dites ?
Je dis plus souvent.
Plus souvent que quoi ? Révérende mère, je ne dis pas plus souvent que quoi ?
Je dis plus souvent.
Je ne vous comprends pas. Pourquoi dites-vous plus souvent ?
Pour dire comme vous, révérende mère.
Mais je n'ai pas dit plus souvent.
Vous ne l'avez pas dit, mais je l'ai dit pour dire comme vous.
En ce moment, 9 heures sonnèrent. À 9 heures du matin, et à toute heure louée, soit et adoré le très saint sacrement de l'autel, dit la prieure.
Amen, dit Fauchelevent.
L'heure sonna à propos. Elle coupa court à plus souvent. Il est probable que sans elle, la prieure et Fauchelevent ne se fussent jamais tirés de cet écheveau. Fauchelevent s'essuya le front. La prieure fit un nouveau petit murmure intérieur, probablement sacré, puis haussa la voix. De son vivant, Mère Crucifixion faisait des conversions. Après sa mort, elle fera des miracles.
Elle en fera, répondit Fauchelevent en boitant le pas et faisant effort pour ne plus broncher désormais.
Père Fauvent, la communauté a été bénie en la mère crucifixion. Sans doute il n'est point donné à tout le monde de mourir comme le cardinal de Bérulle en disant la sainte messe et d'exhaler son âme vers Dieu en prononçant ces paroles « Anc igitur oblationem ». Mais sans atteindre à tant de bonheur, la mère crucifixion a eu une mort très précieuse. Elle a eu sa connaissance jusqu'au dernier instant. Elle nous parlait, puis elle parlait aux anges. Elle nous a fait ses derniers commandements. Si vous aviez un peu plus de foi, et si vous aviez pu être dans sa cellule, elle vous aurait guéri votre jambe en y touchant. Elle souriait. On sentait qu'elle ressuscitait en Dieu. Il y a eu du paradis dans cette mort-là. Fauchelevent crut que c'était une oraison qui finissait.
« Amen, » dit-il.
« Père Fauvent, il faut faire ce que veulent les morts. » La prieure dévida quelques grains de son chapelet. Fauchelevent se taisait. Elle poursuivit. « J'ai consulté sur cette question plusieurs ecclésiastiques travaillant en notre Seigneur, qui s'occupent dans l'exercice de la vie cléricale et qui font un fruit admirable. Révérende mère, on entend bien mieux le glas d'ici que dans le jardin. D'ailleurs, c'est plus qu'une morte, c'est une sainte.
Comme vous, révérende mère.
Elle couchait dans son cercueil depuis 20 ans, par permission expresse de notre Saint-Père Pie VII.
Celui qui a couronné Bonaparte.
Pour un habile homme comme Fauchelevent, le souvenir était malencontreux. Heureusement, la prieure, tout à sa pensée, ne l'entendit pas. Elle continua.
Père Fauvent,
révérende mère,
Saint Diodore, archevêque de Cappadoce, voulut qu'on écrivît sur sa sépulture ce seul mot « Acarus », qui signifie « ver de terre ». Cela fut fait.
Est-ce vrai ?
Oui, révérende mère.
Le bienheureux Mezzocane, abbé d'Aquila, voulut être inhumé sous la potence. Cela fut fait.
C'est vrai.
Saint Terence, évêque de Port, sur l'embouchure du Tibre dans la mer, demanda qu'on gravât sur sa pierre le signe qu'on mettait sur la fosse des parricides, dans l'espoir que les passants cracheraient sur son tombeau. Cela fut fait. Il faut obéir aux morts.
Ainsi soit-il.
Le corps de Bernard Guidonis, né en France près de Roche-Abeille, fut, comme il l'avait ordonné et malgré le roi de Castille, porté en l'église des Dominicains de Limoges, quoique Bernard Guidonis fût évêque de Tuy en Espagne. Peut-on dire le contraire ?
Pour ça, non, révérende mère.
Le fait est attesté par Plantavide de la Fosse. Quelques grains du chapelet s'égrenèrent encore silencieusement. La prieure reprit. Père Fauvent, la mère crucifixion sera ensevelie dans le cercueil où elle a couché depuis 20 ans.
C'est juste.
C'est une continuation de sommeil. J'aurai donc à la clouer dans ce cercueil-là.
Oui.
Et nous laisserons de côté la bière des pompes ?
Précisément.
Je suis aux ordres de la très révérende communauté. Les quatre mères chantres vous aideront.
À clouer le cercueil ? Je n'ai pas besoin d'elles.
Non, à le descendre.
Où ?
Dans le caveau.
Quel caveau ?
Sous l'autel.
Fauchelevent fit un soubresaut.
Le caveau sous l'autel ?
Sous l'autel.
Mais vous aurez une barre de fer.
Oui, mais
vous lèverez la pierre avec la barre au moyen de l'anneau.
Mais
il faut obéir aux morts, être enterré dans le caveau sous l'autel de la chapelle, ne point aller en sol profane, rester morte là où elle a prié vivante. Ça a été le vœu suprême de la mère crucifixion. Elle nous l'a demandé, c'est-à-dire commandé.
Mais c'est défendu.
Défendu par les hommes, ordonné par Dieu.
Si cela venait à se savoir.
Nous avons confiance en vous.
Oh, moi, je suis une pierre de votre mur.
Le chapitre s'est assemblé. Les mères vocales, que je viens de consulter encore et qui sont en délibération, ont décidé que la mère crucifixion serait, selon son vœu, enterrée dans son cercueil sous notre autel.
Jugez, père Fauvent, s'il allait se faire des miracles ici.
Quelle gloire en Dieu pour la communauté! Les miracles sortent des tombeaux.
Mais, révérende mère, si l'agent de la commission de salubrité...
Saint Benoît II, en matière de sépulture, a résisté à Constantin Pogona.
Pourtant, le commissaire de police...
Jauneau de Mer, un de ces sept rois allemands qui entrèrent dans les Gaules sous l'Empire de Constance, a reconnu expressément le droit des religieux d'être inhumés en religion, c'est-à-dire sous l'autel.
Mais l'inspecteur de la préfecture...
Le monde n'est rien devant la croix. Martin XIe, général des Chartreux, a donné cette devise à son ordre. Stat, crux, dum, volvitur, orbis.
Amen, dit Fauchelevent, imperturbable dans cette façon de se tirer d'affaire toutes les fois qu'il entendait du latin.
Un auditoire quelconque suffit à qui s'est tu trop longtemps. Le jour où le rhéteur Gymnastoras sortit de prison, ayant dans le corps beaucoup de dilemmes et de syllogismes rentrés, il s'arrêta devant le premier arbre qu'il rencontra, le harangua, et fit de très grands efforts pour le convaincre. La prieure, habituellement sujette au barrage du silence, et ayant du trop-plein dans son réservoir, se leva et s'écria avec une loquacité d'écluse lâchée.
« J'ai à ma droite Benoît et à ma gauche Bernard. »
« Qu'est-ce que Bernard ? C'est le premier abbé de Clairvaux. Fontaine en Bourgogne est un pays béni pour l'avoir vu naître. Son père s'appelait Teslin et sa mère Alette. Il a commencé par Citeaux, pour aboutir à Clairvaux. Il a été ordonné abbé par l'évêque de Chalon-sur-Saône, Guillaume de Champeau. Il a eu 700 novices et fondé 160 monastères. Il a terrassé Abélard au concile de Sens en 1140. Et Pierre de Bruy et Henri son disciple, et une autre sorte de dévoyés qu'on nommait les apostoliques. Il a confondu Arnaud de Bresse, foudroyé le moine Raoul, le tueur de juifs, dominé en 1148 le concile de Reims, fait condamner Gilbert de la Porée, évêque de Poitiers, fait condamner Éon de l'Étoile, arrangé les différends des princes, éclairé le roi Louis le Jeune, conseillé le pape Gênes III, réglé le temple, prêché la croisade, fait 250 miracles dans sa vie et jusqu'à 39 en un jour.
Qu'est-ce que Benoît ?
C'est le patriarche de Montcassin. C'est le deuxième fondateur de la sainteté claustrale. C'est le Basile de l'Occident. Son ordre a produit 40 papes, 200 cardinaux, 50 patriarches, 1600 archevêques, 4600 évêques, 4 empereurs, 12 impératrices, 46 rois, 41 reines, 3605 canonisés et subsiste depuis 1400 ans. D'un côté Saint Bernard, de l'autre l'agent de la salubrité. D'un côté Saint Benoît, de l'autre l'inspecteur de la voirie. L'État, la voirie, les pompes funèbres, les règlements, l'administration, est-ce que nous connaissons cela ? Aucun passant serait indigné de voir comment on nous traite. Nous n'avons même pas le droit de donner notre poussière à Jésus-Christ. Votre salubrité est une invention révolutionnaire. Dieu subordonné au commissaire de police, tel est le siècle. Silence, Fauvent ! Fauchelevent, sous cette douche, n'était pas fort à son aise. La prieure continua. Le droit du monastère à la sépulture ne fait doute pour personne. Il n'y a pour le nier que les fanatiques et les errants. Nous vivons dans des temps de confusion terrible. On ignore ce qu'il faut savoir et l'on sait ce qu'il faut ignorer. On est crasse et impie. Il y a dans cette époque des gens qui ne distinguent pas entre le grandissime Saint Bernard et le Bernard dit des pauvres catholiques, certains bons ecclésiastiques qui vivaient dans le XIIIe siècle. D'autres blasphèment jusqu'à rapprocher l'échafaud de Louis XVI de la croix de Jésus-Christ. Louis XVI n'était qu'un roi. Prenons donc garde à Dieu. Il n'y a plus ni juste ni injuste. On sait le nom de Voltaire et l'on ne sait pas le nom de César du Bus. Pourtant, César de Bus est un bienheureux et Voltaire est un malheureux. Le dernier archevêque, le cardinal de Périgord, ne savait même pas que Charles de Condran a succédé à Bérulle et François Bourgoin à Gondran et Jean-François Senot à Bourgoin et le père de Sainte-Marthe à Jean-François Senot. On connaît le nom du père Coton, non parce qu'il a été un des trois qui ont poussé à la fondation de l'oratoire, mais parce qu'il a été matière à jurons pour le roi huguenot Henri IV. Ce qui fait Saint-François de Sales aimable aux gens du monde, c'est qu'il trichait au jeu. Et puis on attaque la religion. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu de mauvais prêtres ? Parce que Sagittaire, évêque de Gap, était frère de Salone, évêque d'Embrun, et que tous les deux ont suivi Imomol ? Qu'est-ce que cela fait ? Cela empêche-t-il Martin de Tours d'être un saint et d'avoir donné la moitié de son manteau à un pauvre ? On persécute les saints. On ferme les yeux aux vérités. Les ténèbres sont l'habitude. Les plus féroces bêtes sont les bêtes aveugles. Personne ne pense à l'enfer pour de bon. Oh, le méchant peuple ! De par le roi signifie aujourd'hui de par la révolution. On ne sait plus ce qu'on doit, ni aux vivants, ni aux morts. Il est défendu de mourir saintement. Le sépulcre est une affaire civile. Cela fait horreur. Saint Léon II a écrit deux lettres exprès, l'une à Pierre Notaire, l'autre au roi des Visigoths, pour combattre et rejeter, dans les questions qui touchent aux morts, l'autorité de l'exarque et la suprématie de l'empereur. Gautier, évêque de Châlons, tenait tête en cette matière à Othon, duc de Bourgogne. L'ancienne magistrature en tombait d'accord. Autrefois, nous avions voix au chapitre, même dans les choses du siècle. L'abbé de Citeaux, général de l'ordre, était conseiller né au Parlement de Bourgogne. Nous faisons de nos morts ce que nous voulons. Est-ce que le corps de Saint-Benoît lui-même n'est pas en France dans l'abbaye de Fleury, dite Saint-Benoît-sur-Loire, quoiqu'il soit mort en Italie, au Mont Cassin, un samedi 21 du mois de mars de l'an 543. Tout ceci est incontestable. J'abhorre les psalans, je hais les prieurs, j'exècre les hérétiques, mais je détesterai plus encore quiconque me soutiendrait le contraire. On n'a qu'à lire Arnoul le Vion, Gabriel Bucelin, Trithème, Maurolicus et Don Luc d'Achery. La prieure respira, puis se tourna vers Fauchelevent. Père Fauvent, est-ce dit ? C'est dit, révérente mère. Peut-on compter sur vous ? J'obéirai. C'est bien. Je suis tout dévoué au couvent. C'est entendu. Vous fermerez le cercueil. Les sœurs le porteront dans la chapelle, on dira l'office des morts. Puis on rentrera dans le cloître. Entre 11 heures et minuit, vous viendrez avec votre barre de fer. Tout se passera dans le plus grand secret. Il n'y aura dans la chapelle que les 4 mères chantres, la mère Ascension et vous. et la sœur qui sera au poteau. Elle ne se retournera pas. Mais elle entendra. Elle n'écoutera pas. D'ailleurs, ce que le cloître sait, le monde l'ignore. » Il y eut encore une pause. La prieure poursuivit. « Vous ôterez votre grelot. Il est inutile que la sœur au poteau s'aperçoive que vous êtes là. »«
Révérende mère. »«
Quoi, père Fauvent ? » ?»«
Le médecin des morts a-t-il fait sa visite ?»«
Il va la faire aujourd'hui, à 4 heures. On a sonné la sonnerie qui fait venir le médecin des morts. »
« Mais vous n'entendez donc aucune sonnerie ?»«
Je ne fais attention qu'à la mienne. »«
Cela est bien, père Fauvent. » »«
Révérende mère, il faudra un levier d'au moins 6 pieds. »«
Où le prendrez-vous ?»«
Où il ne manque pas de grille, il ne manque pas de barre de fer. J'ai mon tas de ferraille au fond du jardin. »«
3 quarts d'heure environ avant minuit, n'oubliez pas. » »«
Révérende mère,
quoi ?
Si jamais vous aviez d'autres ouvrages comme ça, c'est mon frère qui est fort, un Turc.
Vous ferez le plus vite possible.
Je ne vais pas hardi vite, je suis infirme. C'est pour cela qu'il me faudrait un aide. Je boite.
Boiter n'est pas un tort, et peut-être une bénédiction. L'empereur Henri II, qui combattit l'antipape Grégoire et rétablit Benoît VIII, a 2 surnoms, le saint et le boiteux.
C'est bien bon 2 surtout, murmura Fauchelevent, qui en réalité avait l'oreille un peu dure.
Père Fauvent, j'y pense. Prenons 1 heure entière, ce n'est pas trop. Soyez près du maître-autel avec votre barre de fer à 11 heures.
L'office commence à minuit. Il faut que tout soit fini un bon quart d'heure auparavant.
Je ferai tout pour prouver mon zèle à la communauté. Voilà qui est dit. Je clouerai le cercueil. À 11 heures précises, je serai dans la chapelle. Les mères chantres y seront, la mère Ascension y sera. 2 hommes, cela vaudrait mieux. Enfin, n'importe. J'aurai mon levier. Nous ouvrirons le caveau, nous descendrons le cercueil et nous refermerons le caveau. Après quoi ? Plus trace de rien. Le gouvernement ne s'en doutera pas.
Révérende mère, tout est arrangé ainsi ?
Non. Qu'y a-t-il donc encore ?
Il reste la bière vide.
Ceci fit un temps d'arrêt. Fauchelevent songeait, la prieure songeait. Père Fauvent, que fera-t-on de la bière ?
On la portera en terre ?
Vide ?
Autre silence. Fauchelevent fit de la main gauche cette espèce de geste qui donne congé à une question inquiétante.
Révérende mère, c'est moi qui cloue la bière dans la chambre basse de l'église, et personne n'y peut entrer que moi, et je couvrirai la bière du drap mortuaire.
Oui, mais les porteurs, en la mettant dans le corbillard et en la descendant dans la fosse, sentiront bien qu'il n'y a rien dedans.
« Ah, dis !» s'écria Fauchelevent. La prieure commença un signe de croix et regarda fixement le jardinier.
Able lui resta dans le gosier. Il se hâta d'improviser un expédient pour faire oublier le juron.
« Révérende mère, je mettrai de la terre dans la bière. Cela fera l'effet de quelqu'un. »«
Vous avez raison. La terre, c'est la même chose que l'homme. Ainsi, vous arrangerez la bière vide. »
J'en fais mon affaire.
Le visage de la prieure, jusqu'alors trouble et obscur, se rasséréna. Elle lui fit le signe du supérieur congédiant l'inférieur. Fauchelevent se dirigea vers la porte. Comme il allait sortir, la prieure éleva doucement la voix.
Père Fauvent, je suis contente de vous. Demain, après l'enterrement, amenez-moi votre frère et dites-lui qu'il m'amène sa fille.
Chapitre 4, où Jean Valjean a tout à fait l'air d'avoir lu Austin Castillejo. Des enjambées de boiteux sont comme des œillades de borgne. Elles n'arrivent pas vite au but. En outre, Fauchelevent était perplexe. Il mit près d'un quart d'heure à revenir dans la baraque du jardin. Cosette était éveillée. Jean Valjean l'avait assise près du feu. Au moment où Fauchelevent entra, Jean Valjean lui montrait la hotte du jardinier accrochée au mur et lui disait « Écoute-moi bien, ma petite Cosette. Il faudra nous en aller de cette maison. Mais nous y reviendrons et nous y serons très bien. Le bonhomme d'ici t'emportera sur son dos là-dedans. Tu m'attendras chez une dame, j'irai te retrouver. Surtout, si tu ne veux pas que la Thénardier te reprenne, obéis et ne dis rien. »
Cosette fit un signe de tête d'un air grave.
Au bruit de Fauchelevent poussant la porte, Jean Valjean se retourna. « Eh bien ?»«
Tout est arrangé et rien ne l'est, » dit Fauchelevent.
« J'ai la permission de vous faire entrer. Mais avant de vous faire entrer, il faut vous faire sortir. C'est là qu'est l'embarras de Charette. Pour la petite, c'est aisé. Vous l'emporterez ?»
Et elle se taira.
J'en réponds. Mais vous, Père Madeleine ?
Et après un silence où il y avait de l'anxiété, Fauchelevent s'écria.
Mais sortez donc par où vous êtes entré ?
Jean Valjean, comme la première fois, se borna à répondre. Impossible. Fauchelevent, se parlant plus à lui-même qu'à Jean Valjean, grommela.
Il y a une autre chose qui me tourmente. J'ai dit que j'y mettrais de la terre. C'est que je pense que de la terre là-dedans, au lieu d'un corps, ça ne sera pas ressemblant, ça n'ira pas, ça se déplacera, ça remuera. Les hommes le sentiront. Vous comprenez, Père Madeleine, le gouvernement s'en apercevra. Jean Valjean le considéra entre les deux yeux et crut qu'il délirait. Fauchelevent reprit.
Comment dire ?
Entre, allez-vous sortir ? C'est qu'il faut que tout cela soit fait demain. C'est demain que je vous amène. La prieure vous attend. »
Alors, il expliqua à Jean Valjean que c'était une récompense pour un service que lui, Fauchelevent, rendait à la communauté. Qu'il entrait dans ses attributions de participer aux sépultures, qu'il clouait les bières et assistait le fossoyeur au cimetière. Que la religieuse morte le matin avait demandé d'être ensevelie dans le cercueil qui lui servait de lit et enterrée dans le caveau sous l'autel de la chapelle. Que cela était défendu par les règlements de police, mais que c'était une de ces mortes à qui l'on ne refuse rien. Que la prieure et les mères vocales entendaient exécuter le vœu de la défunte. Que tant pis pour le gouvernement. Que lui, Fauchelevent, clouerait le cercueil dans la cellule, lèverait la pierre dans la chapelle et descendrait la morte dans le caveau. Et que, pour le remercier, la prieure admettait dans la maison son frère comme jardinier et sa nièce comme pensionnaire. Que son frère, c'était M. Madeleine, et que sa nièce, c'était Cosette. Que la prieure lui avait dit d'amener son frère le lendemain soir, après l'enterrement postiche au cimetière. Mais qu'il ne pouvait pas amener du dehors M. Madeleine si M. Madeleine n'était pas dehors. Que c'était là le premier embarras. Et puis qu'il avait encore un embarras. La bière vide.
Qu'est-ce que c'est que la bière vide ? Demanda Jean Valjean.
Fauchelevent répondit.
La bière de l'administration.
Quelle bière ? Et quelle administration ?
Une religieuse meurt. Le médecin de la municipalité vient et dit « Il y a une religieuse morte. » Le gouvernement envoie une bière. Le lendemain, il envoie un corbillard et des croque-morts pour reprendre la bière et la porter au cimetière. Les croque-morts viendront et soulèveront la bière. Il n'y aura rien dedans.
« Mettez-y quelque chose. »
« Un mort ? Je n'en ai pas. »
« Non. »
« Quoi donc ?»
Un vivant.
Quel vivant ?
Moi, dit Jean Valjean.
Fauchelevent, qui s'était assis, se leva comme si un pétard fût parti sous sa chaise.
Vous ?
Pourquoi pas ?
Jean Valjean eut un de ces rares sourires qui lui venaient comme une lueur dans un ciel d'hiver.
Vous savez, Fauchelevent, que vous a dit la mère crucifixion est morte, et j'ai ajouté. Et le père Madeleine est enterré.
Ce sera cela.
Ah bon, vous riez, vous ne parlez pas sérieusement.
Très sérieusement, il faut sortir d'ici.
Sans doute. Je vous ai dit de me trouver pour moi aussi une hotte et une bâche.
Eh bien,
la hotte sera en sapin et la bâche sera un drap noir.
D'abord un drap blanc. On enterre les religieuses en blanc.
Va pour le drap blanc.
Vous n'êtes pas un homme comme les autres, Père Madeleine.
Voir de telles imaginations, qui ne sont pas autre chose que les sauvages et téméraires inventions du bagne, sortir des choses paisibles qui l'entouraient et se mêler à ce qu'il appelait le petit train-train du couvent, c'était pour Fauchelevent une stupeur comparable à celle d'un passant qui verrait un goéland pêcher dans le ruisseau de la rue Saint-Denis.
Jean Valjean poursuivit. Il s'agit de sortir d'ici sans être vu. C'est un moyen. Mais d'abord, renseignez-moi. Comment cela se passe-t-il? Où est cette bière?
Celle qui est vide?
Oui.
En bas, dans ce qu'on appelle la salle des mortes. Elle est sur deux tréteaux et sous le drap mortuaire.
Quelle est la longueur de la bière?
6 pieds.
Qu'est-ce que c'est que la salle des mortes?
C'est une chambre du rez-de-chaussée qui a une fenêtre grillée sur le jardin qu'on ferme du dehors avec un volet et 2 portes. L'une qui va au couvent, l'autre qui va à l'église.
Quelle église?
L'église de la rue, l'église de tout le monde.
Avez-vous les clés de ces 2 portes?
Non, j'ai la clé de la porte qui communique au couvent. Le concierge a la clé de la porte qui communique à l'église.
Quand le concierge ouvre-t-il cette porte-là?
Uniquement pour laisser entrer les croque-morts qui viennent chercher la bière. La bière sortie, la porte se referme.
Qui est-ce qui cloue la bière?
C'est moi.
Qui est-ce qui met le drap dessus?
C'est moi.
Êtes-vous seul?
Pas un autre homme, excepté le médecin de la police, ne peut entrer dans la salle des mortes. C'est même écrit sur le mur.
Pourriez-vous, cette nuit, quand tout dormira dans le couvent, me cacher dans cette salle?
Non, mais je puis vous cacher dans un petit réduit noir qui donne dans la salle des mortes, où je mets mes outils d'enterrement et dont j'ai la garde et la clé.
À quelle heure le corbillard viendra-t-il chercher la bière demain?
Vers 3 heures du soir. L'enterrement se fait au cimetière Vaugirard, un peu avant la nuit. Ce n'est pas tout près.
Je resterai caché dans votre réduit à outils toute la nuit et toute la matinée.
Et à manger, j'aurai faim.
Je vous porterai de quoi?
Vous pourriez venir me clouer dans la bière à 2 heures.
Fauchelevent recula et se fit craquer les os des doigts.
Mais c'est impossible!
Bah, prendre un marteau et clouer des clous dans une planche!
Ce qui semblait inouï à Fauchelevent était, nous le répétons, simple pour Jean Valjean. Jean Valjean avait traversé des pires détroits. Quiconque a été prisonnier sait l'art de se rapetisser selon le diamètre des évasions. Le prisonnier est sujet à la fuite, comme le malade à la crise qui le sauve ou qui le perd. Une évasion, c'est une guérison. Que n'accepte-t-on pas pour guérir? Se faire clouer et emporter dans une caisse comme un colis? Vivre longtemps dans une boîte? Trouver de l'air où il n'y en a pas? Économiser sa respiration des heures entières, savoir étouffer sans mourir, c'était là un des sombres talents de Jean Valjean. Du reste, une bière dans laquelle il y a un être vivant, cet expédient de forçat est aussi un expédient d'empereur. S'il faut en croire le moine Austin Cathy Légeau, ce fut le moyen que Charles Quint, voulant après son abdication revoir une dernière fois la plombe, employa pour la faire entrer dans le monastère de Saint-Just et pour l'en faire sortir.
Fauchelevent, un peu revenu à lui, s'écria
« Mais comment ferez-vous pour respirer ?»«
Je respirerai
dans cette boîte. Moi, seulement d'y penser, je suffoque. »«
Vous avez bien une vrille. Vous ferez quelques petits trous autour de la bouche, çà et là, et vous clouerez sans serrer la planche de dessus. »
« Bon, et s'il vous arrive de tousser ou d'éternuer ?»«
Celui qui s'évade ne tousse pas et n'éternue pas. »
Et Jean Valjean ajouta « Père Fauchelevent, il faut se décider. Ou être pris, ici, ou accepter la sortie par le corbillard. » Tout le monde a remarqué le goût qu'ont les chats de s'arrêter et de flâner entre les deux battants d'une porte entrebâillée. Qui n'a dit à un chat « Mais entre donc !» Il y a des hommes qui, dans un incident entrouvert devant eux, ont aussi une tendance à rester indécis entre deux résolutions, au risque de se faire écraser par le destin, fermant brusquement l'aventure. Les trop prudents, tout chats qu'ils sont, et parce qu'ils sont chats, courent quelquefois plus de danger que les audacieux. Fauchelevent était de cette nature hésitante. Pourtant, le sang-froid de Jean Valjean le gagnait malgré lui. Il grommela « Au fait, c'est qu'il n'y a pas d'autre moyen. » Jean Valjean reprit « La seule chose qui m'inquiète, c'est ce qui se passera au cimetière. »«
C'est justement cela qui ne m'embarrasse pas, » s'écria Fauchelevent. « Si vous êtes sûr de vous tirer de la bière, moi je suis sûr de vous tirer de la fosse. Le fossoyeur est un ivrogne de mes amis. C'est le père Métienne, un vieux de la vieille vigne. Le fossoyeur met les morts dans la fosse, et moi je mets le fossoyeur dans ma poche. Ce qui se passera, je vais vous le dire. On arrivera un peu avant la brune, 3/4 d'heure avant la fermeture des grilles du cimetière. Le corbillard roulera jusqu'à la fosse. Je suivrai, c'est ma besogne. J'aurai un marteau, un ciseau et des tenailles dans ma poche. Le corbillard s'arrête, les croque-morts vous nouent une corde autour de votre bière et vous descendent. Le prêtre dit les prières, fait le signe de croix, jette l'eau bénite et file. Je reste seul avec le père Métienne. C'est mon ami, je vous dis. De deux choses l'une, ou il sera saoul, ou il ne sera pas saoul. S'il n'est pas saoul, je lui dis, viens boire un coup pendant que le bon coin est encore ouvert. Je l'emmène, je le grise, le père Métienne n'est pas long à griser, il est toujours commencé. Je te le couche sous la table, je lui prends sa carte pour rentrer au cimetière et je reviens sans lui. Vous n'avez plus affaire qu'à moi. S'il est saoul, je lui dis, va-t'en, je vais faire ta besogne. Il s'en va et je vous tire du trou. Jean Valjean lui tendit sa main, sur laquelle Fauchelevent se précipita avec une touchante effusion paysanne. « C'est convenu, père Fauchelevent, tout ira bien. »« Pourvu que rien ne se dérange, » pensa Fauchelevent. « Si cela allait devenir terrible !»